Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
C'est Laura, on est sur Divergence. Et je vous accueille pour cette toute première émission de Terrain Vague. Je suis avec Bruno, qui va m'aider à me guider dans cette première, de ce premier épisode, de cette première émission. Bonjour Bruno.
Bonjour Laura, on est ravis de te recevoir sur les ondes de Divergence FM.
Moi, je suis ravie d'être ici.
Ah ben oui, ben nous en tout cas c'est une thématique, l'art de rue, le street art et d'autres choses, hein, on en reparlera,
oui.
Que l'on voulait aborder depuis très longtemps sur les ondes de Divergence FM et avec ta venue. C'est ce qu'on va faire pendant toute cette saison. Donc
ouais.
Tu l'as dit, l'émission s'appelle Terrain Vague.
Oui. C'est... Terrain Vague. Eh ben, Terrain Vague, alors pour ceux qui connaissent et puis pour ceux qui ne connaissent pas, le Terrain Vague, c'est un terrain où les graffeurs aimaient aller graffer, justement. Ils n'étaient pas dérangés, c'était un peu déconstruit, un peu à l'abandon. Et du coup, il y avait forcément des murs propices, du coup. Alors, je ne vais pas dire au vandalisme parce que non, ce n'est pas chouette de dire comme ça, mais du coup, au graffiti. Et c'est Franck Noto qui, m'a suggéré ce nom. Mm-hmm. Et je suis ravie parce que moi, j'aime beaucoup Terrain Vague et je trouve que ça colle très bien à l'émission.
Laura, avant de présenter l'association Line Up, parce que tu travailles à l'association Line Up, du coup il y aura des ponts qui se feront entre Divergence et l'asso Line Up. Est-ce que tu pourrais nous faire un tout petit historique pour les gens qui ne connaîtraient pas un petit peu du graffiti, du street art, alors ça, aux États-Unis très court et puis en France surtout, c'est là où ça va nous intéresser le plus.
Le graffiti, alors avec mes connaissances, hein, parce que du coup moi j'ai débarqué là-dedans, j'étais complètement novice, donc ça fait à peu près 3 ans et demi que je m'instruis. le graffiti, c'est un courant qui est né plutôt à New York, donc aux États-Unis, années 80, donc avec les métros new-yorkais, etc. Et ça s'est très vite exporté en France, et notamment Montpellier, qui est quand même une ville, je veux pas dire le berceau, mais en tout cas, qui est une des villes, une des places fortes du graffiti en France.
D'accord.
On n'a qu'à faire un tour dans le quai du Verdançon pour s'apercevoir que c'est un haut lieu du graffiti. Et de là, en fait... est né un peu le mouvement du street art et cette appropriation de la rue par l'art. Donc ce qu'ont gardé les street artistes qui ne sont pas tous issus du graffiti, ont gardé ce côté entre guillemets vandalisme, mais je ne veux pas du tout l'utiliser au sens péjoratif du terme, plutôt dans le sens où on va peindre là où on ne nous a pas demandé d'aller. Mais du coup, c'est ça qui est cool parce qu'on se réveille le matin et il y a des nouvelles œuvres, donc il y a toujours de la découverte. Et à Montpellier, on a de la chance parce qu'on a le quartier Méditerranée qui est vraiment un musée à ciel ouvert et on peut voir plein d'œuvres.
Ce que tu dis, musée à ciel ouvert, c'est très intéressant sur cet art, je trouve, qui est le street art et surtout le graffiti. C'est-à-dire qu'on se balade dans la rue et en fait, c'est le seul art en fait, qu'on peut voir en permanence, peut-être avec l'architecture et le design, on va dire.
C'est ça, exactement. C'est ça qui est cool avec cet art-là, c'est qu'il est accessible à tous. En fait, il suffit de lever les yeux. On n'a pas besoin de rentrer dans un lieu d'art, même si c'est très cool, aller au musée, c'est chouette. Mais là, en fait, ça touche vraiment toutes les populations. C'est ça qui est vraiment cool. Tout le monde peut s'exprimer, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et c'est ce qu'on prône, nous, justement, à l'asso, c'est de rendre l'art accessible à tous. Quoi.
D'accord. Allez, on passe sur line-up.
Yes.
Alors, ça fait combien de temps? Pourquoi line-up? Et quelles sont les directions?
Alors, line-up est né en 2015 et c'est parti en fait d'un constat qu'il n'y avait pas de lieu avec des ateliers.
D'accord.
En fait, à Montpellier, on a beaucoup d'artistes. Vraiment énormément d'artistes, nous on le voit au quotidien, mais il n'y a pas de lieu pour les accueillir, on ne peut pas leur proposer de lieu de travail. Ils bossent soit chez eux, soit dans des apparts qu'ils partagent en coloc pour faire plusieurs ateliers. Et du coup, Franck Noto, qui est le parrain de l'association, et Kenny, qui est sa compagne, qui est la directrice de l'association, sont partis de ce constat-là, en fait. Elle l'aidait dans sa carrière, et du coup, ils se sont dit, y a quand même quelque chose à faire, dans le sens où il y a un accompagnement nécessaire à apporter aux artistes, qu'ils soient jeunes ou pas.
Ouais.
Et il y a surtout une demande de lieux de travail, comme on a des zones de coworking qui poussent dans tous les coins de la ville aujourd'hui.
Ouais.
Bah, en fait, il nous manque des espaces de création pour les artistes.
D'accord.
Donc, ils ont trouvé le lieu qu'on a aujourd'hui, donc les ateliers Ernest Michel. Et bah, de là est né Line-Up. Donc, du coup, on a 600 mètres carrés sur plusieurs niveaux.
Ouais.
Et on a des ateliers que les artistes partagent en résidence permanente, parce que forcément, vu qu'ils ont trouvé le lieu, ils partent plus de là. Et voilà, c'est né de ce constat-là. Et aujourd'hui, en fait, on fait le même constat, si ce n'est encore plus criant, que bah, y a toujours plus d'artistes.
Mmh.
On le voit, hein, 'fin, je veux dire, je reprends l'exemple du quartier méditerranéen.
Ouais.
On a énormément de jeunes artistes en fait qui se lancent et qui font ça pour l'instant chez eux. Et nous, on est très sollicités. Justement, on nous demande bah, « Est-ce que vous avez des places vacantes dans vos
D'accord.
ateliers, etc. ?» Non. Malheureusement, on n'a pas de places vacantes. Donc voilà, donc, du coup, Line-Up est né de ce constat-là, voilà, du manque de lieux et de l'accompagnement qu'on peut faire aux artistes. Mmh. Et c'est un des axes du coup, de travail de l'association, c'est le côté pépinière de l'association,
ouais.
où on va accompagner les artistes à se professionnaliser. Donc ça peut prendre diverses formes.
Ouais, ça se passe comment justement ?
Voilà, alors ça va être de l'accompagnement par exemple administratif,
mm-hmm.
parce que la paperasse...
c'est 49% du boulot, on va dire.
Voilà, c'est ça. Et puis on est toujours... on n'a jamais envie d'y mettre, ouais. de mettre les mains dedans, donc, mais il faut y aller. Donc du coup, ben, on les aide un petit peu à... Pour les jeunes artistes, en tout cas, ceux qui démarrent, ben, ça va être tout ce qui est inscription à la maison des artistes,
ouais. hein,
les devis, les factures, etc. Enfin voilà, du conseil, de l'accompagnement. Et puis, ça va être surtout ben, de les solliciter pour travailler.
Mm-hmm.
Donc, quand l'univers de l'artiste s'y prête, ben, on va les solliciter pour travailler sur tel ou tel projet.
Mm-hmm.
Donc, du coup, ben, eux, ça les permet de travailler, de commencer à se faire un réseau, de commencer à se faire connaître, mm-hmm. d'avoir ben, quelque chose à montrer aussi. Donc voilà, il y a tout cet aspect d'accompagnement qu'on fait franchement tous les jours, un peu tous les jours en tout cas, avec les artistes. Il y a un deuxième grand axe de travail, c'est tout le côté médiation et transmission de savoir.
D'accord, ça se passe comment ça ?
Alors ça va être sur plusieurs activités, donc par exemple des visites guidées.
Mm-hmm.
Donc on en anime une avec le musée Fabre,
oui.
donc ça c'est assez inédit,
et
puisque
oui.
du coup les gens commencent au musée et finissent dans les rues du quartier méditerranéen.
D'accord.
Donc bah, du coup voilà, on a ce parallèle à faire entre art classique, art urbain, et observer quelles peuvent être les similitudes, en tout cas, entre les deux.
C'est vachement bien, ça, ce côté transversal de l'art, c'est dire qu'il n'y a pas un art qui en vaut plus un que...
Exactement. En fait, on les met vraiment au même plan et les gens, les visiteurs, bah, observent qu'il y a... Bon, forcément, c'est l'art urbain qui s'inspire plutôt de l'autre.
Mais parce qu'il est venu dans le temps plus tard. Et encore que, sur les grottes de Lascaux, c'était de l'art
urbain. Exactement. C'était du graffiti à l'époque. Et donc, on a cette visite-là. Qu'on anime, on lance une visite par mois, mm-hmm. en tout cas, voilà, la prochaine c'est le 20 septembre à mm-hmm. 16h pour ceux qui souhaitent s'inscrire auprès du musée. On fait des visites guidées au quartier méditerranéen.
D'accord.
Donc là justement on travaille avec notre guide qui va nous proposer bah, quelques nouveaux formats de visites un peu plus thématiques.
Mm-hmm.
On lancera la com très bientôt, donc restez avec nous. et donc voilà, on a ces visites-là donc, qui permettent justement bah, de découvrir ce milieu, peut-être de déconstruire un peu les préjugés ou les a priori qu'on peut avoir, donc ça c'est plutôt cool. Et on a toutes sortes de publics, donc ça c'est vraiment chouette.
Vous êtes sur Divergence FM et vous écoutez le best-of de Terrain Vague.
Bon, du coup, voilà, on était sur le graffiti et on arrive tout doucement à l'émergence du street art. On observe en fait que ben, certains artistes commencent à s'éloigner un peu du lettrage
mm-hmm.
pour arriver vers quelque chose de plus figuratif
ouais.
ou carrément abstrait, mais en tout cas qui s'éloigne du travail de lettrage et de calligraphie à proprement parler. Donc, le but, en fait, c'est effectivement d'arriver à se promouvoir dans l'espace public
mmh.
parce qu'en fait, ce qui est important pour ces gens-là, c'est d'être vu et d'être compris par le plus grand nombre. Parce que finalement, ce qu'on observe avec le graffiti, c'est que c'est... Alors, je veux pas être péjoratif parce que c'est pas du tout ça, mais c'est un espèce d'entre-soi dans le sens où ben, on va poser son graphe mmh. ou on va taguer son blaze dans un endroit, mais finalement on répond à un autre groupe qui a fait tel graffiti à tel endroit,
oui.
on se surpasse, c'est un peu un concours regardez, moi je suis passé là qu'est-ce que tu vas faire au prochain coup, etc.
Ouais, et puis et les endroits aussi, plus les endroits
sont endroits,
difficiles,
voilà, plus inaccessibles, voilà. Donc du coup, ben, c'est pour ça qu'aussi aux yeux du grand public, ben, ça passait pour de la, pour la, la détérioration de, du bien public, pour du vandalisme, etc. Et le but des gens qui se sont approprié le graffiti dans le sens d'intervenir dans l'espace public, bah, c'était de pouvoir montrer autre chose et de pouvoir parler au plus grand nombre.
Oui, et puis là, on voyait que les gens réagissaient plus de la même façon. Ils disaient plus « Ah, oh, c'est moche ». Non, c'est beau.
Exactement, bah, comme vous l'entendez dans mon générique d'ailleurs. Merci Tom. Effectivement, c'est perçu comme une dégradation. En fait, bah, c'est moche, ça veut rien dire. Moi, je comprends pas le pseudo, c'est quoi ? C'est pas beau, ça vandalise, on en voit partout. Mm-hmm. Enfin voilà, il y a cette espèce d'accumulation aussi qui fait que ça bouleverse un peu ce que, enfin le quotidien des gens qui voient ça partout. Donc du coup, on glisse tout doucement vers l'art urbain. Et effectivement, on veut toucher le plus grand nombre, mais on n'oublie pas non plus que quand même sans le graffiti, il n'y aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut bien le garder en tête.
Oui, alors il y a un courant aussi qui était là, qui est toujours là d'ailleurs, qui s'appelle le vandal aussi. Mm-hmm. Notamment avec, là on n'est plus sur du mur, là où a débordé un petit peu le graffiti, on va graver. Carrément, comme ça, on ne peut pas être forcément recouvert. Il y a d'autres pendants qui sont arrivés un petit peu plus tard.
Après, chacun a trouvé la technique qui lui correspondait pour être le plus visible le plus longtemps possible, parce que le risque avec le graffiti, mais c'est aussi le jeu, c'est d'être recouvert par quelqu'un d'autre qui repasse par-dessus, d'être toyé, comme on dit.
Et oui. Nous, on a connu ça avec Sonra devant la radio, qui nous avait fait une fresque magnifique, ça avait duré 2 semaines.
Ah non ! Ah, dommage. mais c'est, ça fait partie aussi du jeu, mais dans l'art urbain, c'est pareil, en fait. Hein, quand on fait un collage, on sait très bien qu'on s'expose à ce qui puisse rester une heure comme une semaine ou un mois. Si c'est pas la pluie ou le vent qui va le dégrader, ça va être quelqu'un qui va venir ou faire son truc par-dessus ou l'enlever, le déchirer. C'est le cas, par exemple, l'artiste Mara qu'on a eu la semaine dernière a fait un super collage au Faubourg du Coureau en 2 parties. Et en fait, c'est un seul et même collage, hein, mais si tu veux, il est sur 2 murs différents. Eh ben, le commerçant, en fait, sur lequel il y avait une partie du collage, son mur, il a enlevé juste sa partie. Il a laissé l'autre partie. Donc, ce qui est marrant aussi, parce que finalement, le collage, ou en tout cas, ça vit avec les gens qui l'entourent. Et là, en fait, il s'est dit, non, moi, sur mon mur, il n'y aura rien. Donc, j'enlève ma partie, mais je laisse la deuxième, quoi.
Mais moi, tu ne trouves pas que c'est ça qui est beau dans cet art, en fait ?
C'est que ça vit. Voilà. Justement, c'est hyper vivant et ça peut devenir plein de choses différentes, quoi. Donc, oui, c'est ce qui fait sa richesse. Mais donc, pour revenir aux techniques, effectivement, chacun trouve de la ressource pour imaginer une technique différente qui sera plus pérenne. Et justement, ça nous amène à la suite. Belle
transition.
donc, pour aller plus vite, pour toucher plus de monde, plus facilement, on a ces techniques qui apparaissent. On a notamment Blake le Rat, qui est quand même un des pionniers du street art, visiblement, qui utilise le pochoir.
Ouais.
Donc, il va dessiner son petit rat justement dans des pochoirs très différents et il va en mettre partout dans Paris. Donc en fait, c'est très vite, on associe directement en fait l'artiste avec le personnage qui fait. On reconnaît directement, c'est sa patte, c'est son style.
Bah, c'est comme un Banksy ou même un Sonra dont on parlait. Exactement. Avec les petits cœurs. On sait que c'est du Sonra ou du Banksy.
On sait que c'est ça. On sait que c'est ça. C'est en dehors du petit cœur, il y a tout le traitement du graphique de son personnage qui va faire qu'on le reconnaît. Mmh. Et effectivement, le cœur rouge sur un perso qui est en noir et blanc, on sait direct que c'est eux. Ces artistes-là, ils ont trouvé un concept, en fait, hyper novateur et qu'ils vont surfer dessus et ils en font vraiment leur propre identité.
Et c'est de là où ça s'éloigne un petit peu, pour moi, en tout cas, du graffiti, parce que là, il y a un temps de préparation, on réfléchit vraiment à ce qu'on va faire, alors que...
Alors, attention attention, parce que le graffiti, il y a de la prépa aussi. Ouais. Hein. On choisit ses couleurs.
Oui, absolument.
Des fois, on esquisse son graffiti avant de le faire.
Ouais, c'est vrai.
Il y en a qui font ça. On réfléchit à la compo, comment on va le remplir, les contours, est-ce qu'on le fait, je sais pas moi, est-ce qu'on fait du bubble, est-ce qu'on fait pas du bubble, comment on va imposer son style en fait. Donc non, en fait, Contrairement à ce qu'on pense, c'est très très réfléchi. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ben, du moment où tu utilises un médium différent, en fait, le processus n'est pas le même. Ce n'est pas qu'on travaille plus ou moins, c'est que la réflexion ne va pas être la même, la préparation ne va pas être la même. Forcément, ben, quand tu crées ton collage, je le vois bien avec Mara quand il est à l'atelier, ça prend du temps. Ça prend toujours moins de temps que faire une toile, mais il y a quand même voilà ce gros découpage de papier collé au mur. On va faire son dessin dessus, on le coupe, on le roule, on prend son seau, la brosse. Enfin, il y a effectivement ça demande une préparation qui est différente, mais qui est pas moins préparée que celle du graffiti. Et on peut pas nier que du coup. Enfin, ça s'éloigne, mais ça reste quand même lié d'une manière ou d'une autre. Enfin, à mon sens, en tout cas, ça reste lié dans le sens où ben, l'un est tiré de l'autre, en fait. Donc, tu vas quand même dans la rue poser ton perso. Dans le cas de Mara, bon, c'est lui que je cite parce que c'est lui qui me vient à l'esprit. Mais ben, c'est pareil, on reconnaît direct.
C'est vrai.
Tu vois ? Comme Blake le rat, comme Banksy, bah, le perso en noir et blanc avec la croix sur le visage, on sait que c'est lui. Oui. Quoi. Donc ouais, la prépa, elle est différente, mais bah, ça reste que tu vas faire un acte de vandalisme un peu quelque part aussi, parce que tu vas aller poser ton collage quelque part où tu n'as pas forcément l'autorisation. Donc tu flirtes aussi avec la légalité. Ouais. Donc on n'est vraiment pas loin du tout. Quoi. Dans les artistes qui utilisent d'autres techniques, on a JR, donc JR qu'on connaît bien aussi, et qui utilise beaucoup le collage au départ en tout cas, enfin aujourd'hui voilà, c'est beaucoup plus élaboré ce qu'il fait, mais en tout cas il utilise le collage lui aussi pour investir des lieux, et dans une technique différente puisqu'on parle de photographie plutôt. Mais pareil, il va placarder ses collages et se rendre visible en fait au plus grand nombre quoi. On poursuit ce petit tour d'horizon et on arrive, en fait on est toujours à Paris et on est dans le 13e arrondissement.
Ouais.
Et on ne peut pas en fait parler d'art urbain je pense sans parler de ce qu'est le 13e arrondissement à Paris en termes de street art. Ça a vraiment, je pense, contribué à populariser cet art. Le 13e arrondissement est rempli d'œuvres, en fait.
Le 13e arrondissement, on est d'accord, c'est là où il y a le métro qui passe au-dessus, non ? C'est pas ça ? C'est, je ne connais pas bien Paris.
Je suis pas sûre si c'est celui-là. Si, on me dit que c'est ça. On me dit que c'est ça. Donc, oui, voilà. Bah, bref, tout ça pour dire que, par exemple, on a une rue, la rue Vincent Auriol, qui compte plus de 20 œuvres, en fait, en une seule rue. Quoi. C'est juste énorme. Il y a eu un événement majeur autour de ça, c'est la destruction de la tour Paris 13. Donc avant d'être détruite, elle a été investie par des artistes, c'était en 2013, ça a vraiment fait un buzz énorme parce que voilà, cette tour elle était vouée à la destruction, et avant d'être détruite elle a été occupée par des artistes, par toutes sortes d'artistes, voilà, comme un peu ce qui s'est passé à la tour d'Assas à Montpellier, voilà, dans le cadre des permis d'imaginer. Alors à la tour, il n'y a eu qu'un seul étage qui a été investi et l'extérieur qui a été investi par Alsti King. Mais c'est un peu le même style, étant donné qu'on veut, faire vivre ce lieu vide. On veut le faire vivre avant qu'il devienne autre chose, avant qu'il soit détruit, etc. Donc c'est aussi, je pense que ça participe beaucoup à cette culture-là, c'est d'investir des espaces, alors des espaces non autorisés, mais des espaces vides, en prenant l'exemple de l'Urbex. Par exemple, qui est beaucoup le cas aussi, c'est-à-dire que les photographes qui vont dans des lieux urbex, donc des lieux abandonnés, etc., ben, ils sont recouverts de graffiti en général. Voilà, c'est des lieux où, ben, comme le Verdançon chez nous, où tu peux y aller, t'es libre de peindre ce que tu veux, pas d'interdit.
Vous êtes sur Divergence FM et vous écoutez le best-of de Terrain Vague.
Mara, tu es du coup résident permanent aux ateliers Ernest Michel, donc hébergé par Line-Up, pas ? Tu nous dis un petit peu comment t'es arrivé dans le milieu de l'art urbain contemporain, qu'est-ce que ça a été un petit peu ton parcours ?
Bah écoute, le parcours assez classique, quand j'étais gosse et je dessinais, un peu comme tous les artistes là actuellement, c'est comme ça que ça a commencé. Et à partir du collège, je dirais, j'ai commencé à aimer l'art urbain. C'est-à-dire qu'il y avait un gymnase à côté de mon collège à Croix d'Argent qui était rempli de graphes.
D'accord.
Des graphes de zeste en plus, pas mal et tout. Donc il a été fait aussi à partir de là.
Ok.
Donc ça m'intéressait, j'avais mon envie de dessiner qui grandissait, ma passion de l'art urbain aussi qui grandissait, c'était assez similaire, il y avait le lien qui s'est fait très très vite. Et après, pareil au lycée, j'ai fait des études dans le graphisme, toujours ce lien avec l'image, avec la communication, avec le message, avec des trucs comme ça. Et j'ai mixé tout ça pour en arriver à ce que je fasse, ce que je fais actuellement.
Ok, donc du coup c'est quand même partie du graffiti en fait, et des lettres. Alors est-ce que c'est le graffiti en tant que de mots écrits sur un mur, ou est-ce que c'est le fait de pouvoir aller peindre sur un mur?
En vrai c'est plus le fait d'aller peindre sur un mur, c'est-à-dire qu'à la base je pensais vraiment que j'allais aimer le graffiti, parce que c'est un truc que j'ai commencé très tard à en faire.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai commencé comme tout le monde, une feuille, un stylo, avec l'espèce d'envie qui grandit en toi d'y aller. Et pour être honnête, une fois que je l'ai fait, une fois que j'ai posé un premier graphe, j'ai pas eu les sensations que je pensais avoir.
D'accord.
C'est-à-dire que j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien être avec mes potes et tout, dehors en train de faire ça. Mais moi, poser un truc, j'avais pas le feeling, les sensations qui allaient avec.
D'accord.
Donc j'aimais l'ambiance, mais pas ce que je faisais. Donc il a fallu que je trouve...
Et est-ce que ça change pas de dimension, justement, de passer du papier avec un stylo à passer à un mur peut-être un peu gigantesque, et surtout à la bombe, du coup?
Ouais, à la bombe. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais en soi, moi, vraiment, là où je me suis pas retrouvé, c'est plus dans artistiquement. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, je viens vraiment du dessin. Mm-hmm. Du dessin, donc j'ai pas une grosse connaissance de la BD. C'est-à-dire que je les lisais pas, mais je les recopiais, en fait.
D'accord.
Donc j'ai pas une grosse culture BD, mais je m'inspirais beaucoup de la BD. Des personnages, des mouvements. Et c'est ça, en fait, qui me faisait vraiment kiffer. C'était pas tant le fait d'écrire mon blaze sur un mur.
Ouais,
c'était pas ça.
Ouais.
Mais la technique, le mur, tout ça, l'aspect plus technique, il était super intéressant. Mmh. C'est vraiment l'aspect artistique où je m'y retrouvais pas, en fait.
D'accord.
C'était ça.
Ok, donc du coup, très vite, en fait, tu es arrivé sur... Enfin, tu voulais quelque chose de figuratif et qui a un sens,
exact.
En fait, que tu puisses faire passer un message.
En fait, quand j'ai goûté à ça, je me suis dit, ok... Ça, j'aime. Mm-hmm. Je sens qu'il y a un truc à faire avec ça. Maintenant, il faut juste que je trouve ce que j'ai à faire. Parce que là, ce que je fais actuellement, c'était pas... J'avais rien à proposer.
D'accord.
Je faisais comme tout le monde, en fait. Comme mes potes, comme ceux avec qui...
Oui, tu posais ton blaze, mais pas plus, quoi.
Mais j'ai réfléchi. Pourtant, j'ai un gros respect pour les gens qui font ça, avec le graffiti et tout. Mais personnellement, en fait, je me sentais pas de faire ça. Je voyais ni l'intérêt, ni le...
Tu voulais aller plus loin, en fait, déjà que simplement...
Mais
que
j'avais le lien, tu vois, genre avec la rue, avec le mur, avec le format, justement, que ce soit un grand format.
Ouais.
Et maintenant, il fallait juste que je sente ça avec le dessin. Okay. Je sentais qu'il fallait que je dessine.
D'accord.
Pas que je peigne ou que je graffe, je voulais vraiment dessiner.
Et comment t'es arrivé, alors juste... Un petit aparté pour ceux qui ne savent pas et puis qui ne peuvent pas le voir parce que c'est la radio. Mara, du coup, met en scène un personnage, donc personnage en général en noir et blanc, qui a pour visage, pour trait de visage, une croix épaisse noire.
C'est ça,
on les voit un peu partout.
Mmh. On les voit un peu partout dans Montpellier, je suis sûre que les auditeurs en ont aperçu déjà. Comment est-ce que tu as arrivé à élaborer ce personnage? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à... Parce qu'il est très spécifique, très reconnaissable, ce personnage. Mmh. Comme Jace fait le gouzou qui
perso.
Voilà, c'est ça. Et c'est ton identité. Comment t'es arrivé, en fait, à ce résultat-là? Qu'est-ce qui a mûri dans ta tête pour arriver à ça?
C'est vraiment à partir du lycée. Donc, j'avais 15-16 ans, un truc comme ça. Mmh. J'avais déjà fait mes premiers graphes, des trucs dans ce délire-là. Et c'est pendant mes études. Il fallait que je dessine. J'avais des petits cours de dessin à droite à gauche et je ne savais pas faire de visage. À l'époque, j'ai toujours pas en faire, mais à l'époque, déjà, je ne savais pas en faire. Et donc, j'ai fait une croix à la place de tous les visages que je faisais. Donc, je faisais le corps et tout, puis je faisais une croix. Mais une croix de frustration, quoi. De colère, une croix.
Ouais, de ne pas savoir dessiner, en fait.
Déjà, dans la gestuelle de faire une croix, tu vois, c'est assez. C'est colérique, on va dire.
Oui, complètement.
Tac-tac, c'est très vif, c'est très. Et en fait, je l'ai gardé parce que je me suis dit, il est sorti comme ça.
Okay.
Tu vois, c'est pas un truc que j'ai cherché, c'est limite un truc qui était en moi qui est sorti de cette manière-là. Donc, je l'ai juste retravaillé et pour qu'il convienne à ce que moi, je voulais faire dans la rue. Donc, c'est un mix de tout ça, c'est un croisement de mon envie d'aller dans la rue, de ce personnage qui est arrivé, de mon envie de faire du dessin, C'est vraiment le résultat de toutes les questions et de tous les cheminements que je voulais faire.
Et c'est ça qui est beau, je trouve, Laura, dans l'art, c'est que d'un défaut, tu en as fait une qualité. Ouais. Et en fait, d'un message, en fait, c'était pas forcément la croix, c'était pas forcément le message que tu voulais passer au départ. Mais moi, je sais pas, quand je suis devant ça et que je vois une tête avec une croix, il y a plein de messages qui arrivent dans ma tête.
C'est ça, et on se doute pas aussi que lui a eu ce cheminement pour arriver là. Alors aujourd'hui, cette croix, enfin ce visage en tout cas, et le fait qu'il n'ait pas, enfin le fait qu'il n'ait pas de visage et que tu le mettes en scène, ben ça, tu fais passer toutes sortes de messages aussi.
Et puis c'est
aussi
super symbolique. Mais les symboles, justement, ils viennent. Moi, je pense que j'ai grandi avec ce personnage. Je dis, j'avais 15 ans quand je l'ai créé.
Et oui, forcément.
Tu vois, donc il a pas le même. Pourtant, ça reste le même. Il a évolué, tu vois, forcément, parce qu'il a grandi comme moi j'ai grandi.
Et puis il porte pas les mêmes messages qu'à l'époque
aussi. Il porte pas les mêmes
messages,
il porte pas la même symbolique.
C'est ça.
Il porte pas, voilà.
Je pense qu'aujourd'hui la croix, tu la fais plus avec la colère de l'époque aussi.
Non, justement, j'ai pas les mêmes sensations moi déjà quand je le fais.
Ah ouais.
Je suis plus dans le contrôle avec ce personnage-là. Et non, j'aime bien le fait qu'il soit sincère.
Ouais.
J'aime bien le fait qu'en fait j'ai pas eu à le chercher, j'ai pas eu. C'est pas le résultat de quelque chose. Il est venu comme ça.
Et puis après, il a mûri avec toi, et toi, t'as mûri avec lui, finalement. Ouais. C'est une belle relation que vous entretenez.
On est bien, on s'entend bien.
Ça marche bien,
ça marche bien.
Et du coup, ce perso, tu le mets en scène dans toutes sortes de situations.
Ouais.
Plutôt avec un angle humoristique, n'est-ce pas?
Ouais, un peu cynique même.
Carrément cynique parfois. Pourquoi parce que c'est pareil, hein, moi je te connais, mais les autres ne te connaissent pas forcément. Pourquoi t'as choisi cet angle-là, en fait? Pourquoi ça aurait pu être quelque chose de très sérieux, de très militant, ou d'avoir des revendications, etc. Mais toi, tu choisis, en fait, de faire passer tes messages avec ce biais-là.
Ouais.
Pourquoi t'as choisi ça?
Parce qu'en fait, c'est le seul truc qui marche sur moi. C'est-à-dire que c'est le seul, tout ce qui est militant, tu vois, des artistes qui sont... Je supporte pas ça.
D'accord.
C'est-à-dire que chez moi, c'est repoussoir. Tu vois, j'ai envie de faire l'inverse de ce que tu m'as dit.
Je comprends.
Avec ton... Tu vois, c'est vraiment, ça marche pas.
Ouais.
Et donc forcément, tu vois, si j'arrive à un extrême comme ça de... Je peux pas, moi, de mon côté, faire la même chose.
Oui, bien sûr.
Vois, donc je fais ce qui marche sur moi, c'est-à-dire l'humour, c'est-à-dire le cynisme, c'est-à-dire un truc très sérieux, parce que ça reste des messages, tu vois, genre tu parles, des fois tu peux parler de mort, des fois tu peux
parler
de... Mais tant que l'angle que tu as choisi, bah, il passe, il est un peu à côté, c'est un peu un angle, voilà, c'est, t'as plein de... Tant que tu as des niveaux de lecture différents, moi ça me parle.
Et c'est ça qui est cool, justement, c'est qu'avec ce personnage, on remarque qu'on a des niveaux de lecture qui sont très variés. En fait, tu peux toucher les enfants, parce que tu interviens quand même pas mal avec les scolaires.
Ouais, j'interviens avec les scolaires, puis surtout, même sans intervenir avec eux, quand tu es dans la rue, moi, c'est mon avis en tout cas, faut que tu, si tu as choisi ce médium-là, il faut que tu parles à tout le monde.
C'est sûr.
C'est-à-dire que tu peux pas te restreindre à une seule partie de la population.
Non,
quoi,
c'est ce qu'on disait dans l'émission de la semaine dernière. C'est ça qui est cool, mais c'est ça qu'il faut prendre en compte quand on est un artiste, c'est que c'est accessible à tous.
Bah ouais.
Donc il faut pouvoir parler,
parler
au plus grand nombre, en fait.
Sans forcément prendre les gens pour des imbéciles, tu vois, justement, leur faire confiance, donc faire des messages comme toi t'as envie de faire.
C'est clair.
Et quand même, choisir le bon ton, la bonne mise en scène, la bonne position du personnage, tout ça, dans mon cas en tout cas, pour vraiment donner la possibilité, on va dire, aux enfants, aux adultes, aux ados, de pouvoir avoir leur propre histoire.
Complètement.
C'est-à-dire que des adultes, je pense qu'ils vont avoir un truc un peu plus profond dans le message, ils vont voir un peu ce que j'ai réellement voulu faire passer.
C'est ça, je pense qu'ils vont
et
aller plus loin que la première
pense,
lecture.
Ouais, voilà, il va juste voir l'image telle qu'elle est, qui a
fait.
Aussi une symbolique.
Complètement.
Fois, beaucoup plus léger, des fois...
Et à quel moment, quand on prépare son travail, on se dit, ça y est, j'y suis, là, je peux y aller?
c'est pas mal de ressentis, c'est pas mal de... C'est beaucoup de questions que je pose aussi autour de moi.
Ouais.
Laura, elle le sait, mais avant de faire avant de proposer ne serait-ce qu'une toile ou même un collage dans la rue, je demande.
D'accord.
Je demande aux gens autour de moi, des gens en line-up, j'envoie des photos à mes potes, à un truc, pour voir si au moins le message que j'ai voulu faire passer, il était perceptible, il était cohérent, il était... Donc voilà, c'est beaucoup de questions.
D'accord.
Beaucoup, beaucoup de questions.
Donc il y a quand même un sacré travail en amont, quoi.
C'est important pour moi de je pense que ce que je veux pas, c'est pas ne pas être compris, c'est faire comprendre autre chose.
Oui, qu'on passe à côté de ton message ou qu'on comprenne
c'est ça.
Quelque
Encore
chose
ne pas
que
avoir
ce que t'as voulu
compris,
dire.
Tu vois, je peux l'accepter, mais que t'aies compris complètement autre chose.
Ouais.
Tu vois, je trouve ça limite même dangereux des fois.
Oui.
Tu vois, c'est compliqué de pas se faire comprendre. Et je veux pas en arriver là, c'est pour ça que c'est important d'utiliser les images qu'il faut au bon moment. Donc c'est beaucoup de ressenti, c'est beaucoup de feeling, de questions. Voilà.
Après, c'est quelque chose qui est inhérent à l'atelier, justement, c'est que tous ces artistes parlent beaucoup entre eux, en fait, et se posent des questions. Enfin, on va aller demander à l'autre conseil, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. C'est une ambiance qui est hyper stimulante. C'est vraiment une belle émulation qui est là-dedans. Bon, après, on a de la chance de travailler avec des artistes qui sont tous des très grands gentils et des très grands sensibles. mais c'est vrai que... Ils travaillent en bonne intelligence et quel que soit le parcours des uns et des autres et l'expérience et ce qu'ils font, bah en fait, chacun va se nourrir de l'état d'esprit de l'autre et ils vont vraiment se tirer vers le haut. Quoi. Et bah, Mara, c'est l'exemple type, c'est-à-dire que, il consulte beaucoup les autres pour savoir qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on comprend ce que j'ai voulu dire, etc. Donc, ça, c'est plutôt.
Bah ouais, c'est faut plutôt profiter cool. de ça.
Exactement, faut profiter de ça, c'est clair.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah, regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.